19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, c'est les informés. Et dans les informés, nous commentons, analysons et décryptons l'actualité et elle est dense, riche et notamment ce soir, trois sujets qui ont retenu notre attention, des invités mais également aussi l'édito du Quoi de Neuf avec Pascal Boniface qui sera avec nous tout à l'heure et son billet d'humeur. L'invité du jour, on va revenir sur la polémique, vous le savez, concernant le burkini. Aïe aïe aïe, même Mélenchon s'en mêle. Clochette. Eh bien, nous invités, tout à l'heure, nous parlerons justement avec la question qui fâche. Trois sujets. Elisabeth Borne qui fait son premier déplacement aux Mureaux. Pourquoi les Mureaux? Pourquoi les Yvelines? Pourquoi un quartier populaire? Pour parler d'égalité des chances. Mais finalement, grande question, ça veut dire quoi l'égalité des chances? On en parlera. Autre sujet aussi, c'est celle, vous le savez, on reviendra et on en reparlera. Mélenchon qui dit, si on interdit le burkini, eh bien, il va falloir interdire à Griezmann, Giroud, Messi d'aller dans une piscine car ils ont des tatouages de Jésus. Clochette. Deux, allez, deux. Mélenchon. Bon, lui, il cherche, il prépare les élections, lui, hein, législatives. Hein. Il veut galvaniser. Bon, on comprend, c'est normal. Autre sujet aussi qui a retenu notre attention, ce sont les élections législatives. Alors, la toute nouvelle mouvance politique formée par Mélenchon. C'est un peu la guéguerre avec Darmanin. La guéguerre, pourquoi faire? Parce qu'il accuse la Macronie de refuser d'enregistrer les candidatures NUP. Oh, clochette! Non, il veut pas. Non, il a dit non, pas pour le moment. Bon, eh bien, les élections législatives, elles dénoncent, toute l'équipe de Macron, de Mélenchon, dénonce une duperie hein, concernant le ministère de l'Intérieur, parce que, paraît-il, il y a une percée d'un côté, mais de l'autre, on ne veut pas en parler. Ça mérite une clochette. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité, eh bien, du jour, c'est parti, on va parler de cette grande polémique concernant le burkini.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Raphaël, qui est la fondatrice de Swimmy, hein ?
Oui, tout à fait.
Absolument. Rappelez-moi votre, pardonnez-moi, vous savez que j'ai dans mes fiches votre nom de famille.
Quel nom? De Monténaret.
De Monténaret. Pardonnez-moi.
De Monténaret.
De Monténaret. De Monténaret. Dites-moi, Raphaël de Monténaret, vous êtes la fondatrice de Swimmy. Justement, vous apportez-vous le bonheur qui handicape certains, c'est-à-dire?
Alors, nous, sur Swimmy, donc Swimmy, c'est une plateforme de location de piscines entre particuliers. Donc, vous êtes un propriétaire, vous pouvez louer votre piscine pour une après-midi.
Oui.
Vous êtes un locataire, vous pouvez louer une piscine pour quelques heures, ou pour l'après-midi, ou pour la journée.
Dites-moi, Raphaël de Monténaret, Swimmy, rassurez-moi, c'est pas, vous ne l'avez pas fondé parce que, justement, le burkini posait problème.
Alors, non, on n'a pas du tout fondé Swimmy parce que le burkini posait problème. Il se trouve cependant qu'aujourd'hui, on a sur la plateforme des jeunes femmes de confession musulmane qui viennent.
Mais c'est ce que je vois.
Et qui, bah, du coup, trouvent leur bonheur voilà, puisque du coup, Swimmy leur permet de se baigner autour d'une piscine privée sans être vu d'autres personnes. Et de se baigner potentiellement aussi en maillot de bain.
Donc ça fait le bonheur de toutes celles qui, justement, sont en burkini, elles passent par vous. Pour privatiser en quelque sorte un peu la piscine, une piscine qui se trouve dans les régions parisiennes.
Alors, en effet, sur Swimmy, donc vous pouvez louer une piscine, quelle que soit votre condition. Après, encore une fois, sur Swimmy, les locataires se baignent principalement en maillot, mais en tout cas, la piscine est privatisée, donc du coup, elle intéresse beaucoup les locataires.
Dites-moi, Raphaël de Monténaret, justement, comment vous réagissez, vous, face à cette polémique concernant le burkini qui a démarré sur la ville de Grenoble et qui divise la ville, d'ailleurs. Vous, comment vous l'avez vécu?
Alors, nous, pour être très honnête, ça nous fait plus que ça, puisqu'on est une plateforme privée et nos propriétaires et mettent les règles qui semblent les plus... Et c'est juste dans leur piscine. Il se trouve que la plupart de nos propriétaires accueillent beaucoup de personnes. un peu tout le monde, hein, finalement. Et
ouais.
On entend, en tout cas, on voit que c'est un vrai sujet.
On vous entend très très mal, vous savez, mon Raphaël de Montaret. On a quelques difficultés à vous entendre. Je ne sais pas, c'est comme si la liaison était brouillée.
Ah, ouais. Moi je vous entends très bien.
Ah, là, alors, c'est nettement là, mieux. Un peu, ah, mieux. Bah, okay, un peu mieux, un peu mieux. Donc vous disiez, justement, ces femmes qui sont qui veulent, évidemment, en toute discrétion, se baigner, profiter, évidemment, même si, encore une fois, rappelons-le, à l'antenne, parce qu'il faut le dire, normalement, dans les piscines, il n'y a pas formellement d'interdiction. Mais celles qui vous écoutent aujourd'hui et qui veulent se retrouver de façon privée, est-ce que c'est possible chez vous ? Est-ce qu'on peut louer une piscine privée à la journée, à la mi-journée, et se retrouver justement avec son burkini sans qu'il y ait un quelconque sujet ou une quelconque polémique ?
Alors, sur Swimmy, encore une fois, vous pouvez vous baigner, louer une piscine, et en fonction des propriétaires, en fonction de toutes nos annonces, vous pouvez trouver potentiellement des propriétaires qui acceptent le port du burkini.
Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes, justement, qui vous écoutent et qui aujourd'hui sont parfois dépourvues, désarmées, qui ne peuvent pas profiter finalement, comme toutes les femmes, de se baigner, de profiter tout simplement de ce qu'on dit, de faire autre chose et de faire finalement une vie comme une vie classique.
Bien sûr. Et ben moi je vais leur dire bienvenue, bienvenue chez Swimmy. Chez Swimmy, vous pouvez vous baigner dans une piscine privée pour une après-midi, une journée. Voilà, en respectant le propriétaire. Le propriétaire respecte aussi ses locataires. Donc voilà, il y a une sorte de belle communion qui se fait entre tout le monde. Et aujourd'hui, il y a tout le monde est la bienvenue sur Swimmy.
Eh bien, merci. Vous êtes la fondatrice de Swimmy, Raphaël de Montaret. Swimmy, c'est SWIMY, c'est bien ça, hein ?
Exactement.
J'ai regardé un peu votre site, effectivement.
Bon. Vous allez venir vous baigner ?
Ça donne envie de se baigner, en tout cas, ça c'est sûr. On voit que ça. Ça donne envie. Ça donne envie de se baigner et surtout de partager.
Bah, super. Bah, merci en tout cas pour votre interview.
Merci à vous surtout. Et puis nous aussi, on va continuer de parler de cette polémique concernant le burkini justement. Merci à vous et bon courage.
Merci,
19h08. Tout de suite, nous allons accueillir le face-à-face. C'est parti.
Les informés, le face-à-face. Le face-à-face.
Qu'est-ce qu'il y a, Rudy Kazi ?
Non, je vous demande si vous alliez bien.
Mais moi, je vais très bien. Je suis heureux de vous voir. Comment ça va, Rudy ?
Très bien.
Face à vous, c'est Jean-Pierre Colombiès. Comment ça va ?
Bonsoir Adil, ça va?
Il est déjà en tenue estivale, Jean-Pierre.
Et bonsoir aux auditeurs et aux auditeurs.
Ah, lui, il a raison d'ailleurs. Il vient à la radio en tenue estivale. Il a raison.
Bah, c'est pas filmé, donc je peux être en...
Il a oublié la cravate. Hein. Ah, vous avez carrément.
Je suis en short.
Chemise ouverte. C'est la première fois que je vois chemise
ouverte. Pantacourt.
En pantacourt. Ouais, c'est vrai. Ça
reste... Vous trahissez cette tenue vestimentaire à la radio.
C'est pas
très fair play.
C'est pas très fair play.
Non, au contraire, il vient à la cool. C'est bien.
Toujours de bon goût.
Par contre, en revanche, vous, Rudy Kazi, vous êtes venu sans cravate et chemise ouverte.
Ouais. Ouais, il fait juste un peu trop chaud.
Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est rare de vous voir comme ça.
Preuve en est que...
Sportswear.
Et preuve en est qu'on se voit pas
sans casquette PSG. Et sans la casquette PSG. Elle est là ! Oh, je l'avais pas vue, clochette ! Oh ! Je l'avais pas vue.
On remarque tout
ici, hein.
Ouais.
Attention, on remarque tout, hein. Rien nous échappe ici, hein. Messieurs, tout de suite, nous allons parler d'Elisabeth Borne qui a décidé de consacrer, vous savez quoi ? Son tout premier déplacement sur la ville des Mureaux, dans le 78, dans un quartier populaire, pour parler des jeunes femmes, mais également aussi d'égalité des chances. Est-ce le bon choix, messieurs ? Jean-Pierre Colombiès.
Si je puis me permettre...
Ou alors, est-ce qu'on prépare la législative ?
Tiens, tu réponds déjà à la question.
J'en sais rien, je pose les questions.
Enfin, lance une piste, non mais on va être sérieux deux secondes.
On est sérieux là, pourquoi ? Jusqu'ici, on n'était pas sérieux, on est sérieux.
Je vais être un peu méchant et cynique.
Soyez méchant et cynique, allons-y.
De qui on se moque ? C'est dommage qu'elle n'ait pas été au gouvernement avant, alors finalement. Ah mince, elle y a été.
Il va finir éditorialiste aux informés, lui, comme tous les éditorialistes qui sont là.
Je vous rassure, très cher Adi, je ne suis plus invité sur d'autres médias, peut-être à cause de ça. Non, pour revenir au sujet, on va être sérieux deux secondes. Madame Borne va au Murau pour parler d'égalité des chances. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas
d'égalité. Et d'insertion des jeunes.
D'accord. Donc ça veut dire que les deux. Enfin, ça tombe bien. Donc ça veut dire qu'il n'y a ni insertion des jeunes dans ces secteurs, ni égalité des chances. On est bien d'accord. Parce que si on va faire la promotion de l'égalité des chances et égalité des chances et
de l'insertion des jeunes.
Et l'insertion des jeunes, c'est que ça patine quelque part. Bon, ces braves gens sont dans la politique quand même depuis des années. On nous présente Madame Borne comme ayant une étiquette de gauche. Bon, je ne sais plus trop ce que ça veut dire d'ailleurs, mais enfin, à mon avis, ça n'a strictement aucun sens. Surtout quand on a été associé au gouvernement de Monsieur Macron pendant 5 ans. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je referme aussitôt. Mais enfin, ça me rappelle un petit peu la visite d'un certain Emmanuel Macron à Marseille, souvenez-vous, quand il avait fait la tournée des quartiers populaires aussi, en allant serrer les mains aux uns et aux autres, en allant manger des loucous.
Arrêtez! Oh là là, Jean-Pierre!
Très cher Adil. Non, mais à un moment donné, faut arrêter le show. Faut bosser, faut faire du concret. Faut arrêter. Quand il est allé faire son discours au Pharo,
elle s'adresse aux jeunes demoiselles.
Aux jeunes demoiselles.
Ben oui.
Quelles demoiselles?
Aux jeunes filles.
Pour moi, c'était les demoiselles
qui sont l'avenir.
De Cherbourg. C'était pas les demoiselles
l'avenir.
De La Rochelle, pas de Cherbourg. Les demoiselles de Rochefort, pardon.
Rochefort. Absolument.
Non, c'est pas sérieux. Enfin,
c'est pas sérieux. Bon.
Ça fait populaire, c'est bien pour la photo, c'est bien pour les radios, mais c'est pas sérieux.
Tout c'est simplement. Pas sérieux. Redis quasi, vous dites quoi? C'est pas sérieux?
Bah, en fait, je sais pas ce qu'on lui reproche, en fait.
Elle agit en faveur de l'égalité des chances, et pourquoi pas? Et pour échanger avec les jeunes filles qui sont, justement, organisées, qui ont décidé de prendre leur avenir en main.
Ah oui, parce que vous avez aussi la promotion
voilà,
des jeunes
filles. Pourquoi pas? Moi, je vois pas ce qu'on peut reprocher là pour le coup.
On peut pas lui en vouloir, là.
Évidemment.
Dans son discours d'ouverture, dans son discours, justement, quand elle a fait la passation. Avec Jean Castex, c'était ses premiers mots, c'était je veux m'adresser aux jeunes filles.
Moi, je pense que là, pour le moment, c'est un nouveau gouvernement. Enfin, du moins, le gouvernement n'a pas encore été formé, mais en tout cas, c'est une nouvelle première ministre. Elle était en charge des transports sur la précédente mandature. Donc, c'est une gouvernance. Enfin, c'est un métier qui est complètement différent. Être ministre des transports et être premier ministre, c'est différent. Donc,
elle a eu d'autres casquettes.
Oui, mais enfin, pour le moment, je veux dire, là, elle est premier ministre. C'est la première fois qu'elle exerce cette fonction. Laissons-lui un peu le temps de faire ses preuves en
est-ce
tant que première ministre.
Est-ce qu'elle a le temps
avant de la juger? Mais je veux dire,
Jean-Pierre,
c'est pas
il
sur
va
un
vous répondre.
Premier, après, toutes les réponses sont entendables. Y a pas de
bon.
C'est pas sur un premier.
Mais on parle de mentorat des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez justement sur l'égalité des chances, le mentorat
déjà,
des jeunes?
J'aimerais aller jusqu'au bout de ce que je suis en train de dire. C'est
allez-y,
pas sur
allez-y,
ce
allez-y,
premier déplacement-là qu'on va la juger. Et en l'occurrence. Si on juge sur le fond et sur la forme, il n'y a pas de sujet compliqué. Maintenant, après, ça va être plutôt... Moi, ce qui m'intéresse sur le gouvernement, c'est le cap. C'est le cap. Quel cap va être fixé? Avec qui, Elisabeth?
Revenons sur le sujet au Murau, s'il vous plaît. Moi, je veux qu'on s'adresse, je veux qu'on s'arrête sur cette déclaration. Elle dit au Murau, justement, il y a un petit extrait, Yanis, justement.
À ce moment-là,
donnons
la déclaration et commentons-la.
Regardez.
Sinon, sur le
déplacement, parce qu'elle dit une chose. Elle dit, je vais mettre en lumière son engagement en faveur du mentorat des jeunes. Elle dit aussi qu'elle est profondément attachée au fait que la République doit donner sa chance et à chacun et à chacune. Hein, voilà. Écoutez un petit peu l'ambiance qui règne au Murau.
Moi, j'ai été nommée il y a quelques jours et je vous dis, on va pas se mettre la pression et décider là tout de suite maintenant. On veut la meilleure équipe. C'est un choix qui est évidemment important d'avoir une équipe avec les meilleurs talents. Et donc, on y travaille. Et évidemment, vous impatientez pas.
Pour aujourd'hui ou pour demain?
Eh bien, vous verrez.
Alors, on entend très très mal. Visiblement, là, c'était plutôt la séquence où elle réagit face à une question qu'on lui posait concernant le futur visage du nouveau gouvernement. Je voulais plutôt l'extrait justement avec ces jeunes filles parce que c'était très intéressant. Alors, qu'est-ce que vous répondez, vous, justement, quand elle dit « je veux donner la chance », en tout cas, elle est profondément attachée au fait que la République doit donner sa chance à chacun. On parle de mentorat des jeunes. Je veux qu'on parle de ça.
La question pour moi, c'est de laisser l'efficience et l'efficacité de ça. Sinon, sur le fond, on est tous d'accord qu'il faut donner la place aux jeunes. Aujourd'hui, vous avez par exemple en France ce qu'on appelle les NEET, qui n'ont ni emploi, ni éducation, ni formation. Okay ? Ils représentent, je crois qu'ils sont à peu près 5 millions en France. Mmh. C'est un enjeu. Ça devait être un enjeu sur la précédente mandature. Malheureusement, ça n'a pas été suivi de faits concrets. Et on attend, en tout cas sur cette mandature-là, que ça le soit. Parce que parmi ces NEET, il y a beaucoup de jeunes qui sont issus des quartiers, beaucoup de jeunes qui sont confrontés qui sont confrontés au décrochage scolaire, et beaucoup de jeunes qui sont aussi confrontés à la délinquance. Et le fait d'aller au Mureau, c'est le symbole d'aller dans une commune qui est quand même connue pour avoir pas mal de QPV et des jeunes en situation
de
grandes difficultés, évidemment. Et après, c'est l'analyse, on va dire, sur le plan sur le plan social. Donc il y a des attendus et on en attend plus. Il y a pas de souci là-dessus. Mais là, après, sur le plan purement politique, je veux dire, qui on est pour juger. Je veux dire, ça aurait été n'importe quel gouvernement, ils en auraient fait aussi un déplacement politique.
Oh, mais là, c'est pas sous
ce que nous on attend. Ce que nous on attend, maintenant, c'est des faits concrets. Moi, je viens de quartier, j'ai connu le décrochage scolaire, j'ai connu toutes ces choses. À un moment donné, ce qu'on veut, c'est des outils pour pouvoir aider ces jeunes.
Mentorat des jeunes.
Pour pouvoir s'en sortir.
Un pal de mentorat.
Mais le mentorat, c'est quelque chose de très simple. Moi, je fais du mentorat sans pour autant que ce soit porté par une activité professionnelle. Je discute avec des jeunes du quartier qui est derrière chez moi. On parle pendant une heure, deux heures. Je leur donne des clés. Je leur rentre des fois un petit peu dedans pour qu'ils puissent se booster, pour les booster un petit peu. Le mentorat, c'est d'abord un état d'esprit. Donc,
on me pousse à marquer la première pause pub. Jean-Pierre, on marque juste une pause. On se retrouve tout de suite après, notamment 0153 48 3000. Qu'en pensez-vous? Comment vous réagissez? On vous attend au standard. A tout de suite, Rudy Casi et Jean-Pierre Colombiès.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
Eh bien, 19h23, si vous venez de nous retrouver, les informés, tout de suite, rappelons le numéro de votre standard.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
La parole et on vous attend au standard. 01 53 48 3000, c'est tout de suite, c'est maintenant. Allez vous emparer de votre téléphone. Venir commenter, justement, les Mureaux. Elisabeth Borne, la toute première ministre, eh bien, fait son tout premier déplacement. Est-ce qu'il s'agit là de séduire ou tout simplement de reconquérir les quartiers populaires? On parle de mentorat des jeunes. Je donne la parole à Jean-Pierre Colombiès, qu'on n'a pas entendu.
Et qui peut faire part de son désaccord.
Bien, rapprochez le micro bien devant vous. Oui, voilà, c'est mieux.
Et qui peut faire part de son désaccord.
Parce allez-y, que bon, justement, on en a besoin.
On a laissé notre ami développer son analyse, que je respecte. Mais
pas la vôtre.
Qui est absolument pas la mienne, pour une raison simple, c'est que Madame Borne est Premier ministre depuis moins d'une semaine, ok, très bien, mais elle était déjà dans l'équipe précédente, donc déjà, c'est pas un point positif à mes yeux. On peut pas faire semblant de découvrir les problèmes comme ça, parce que ça fait même pas une semaine qu'on est Premier ministre, alors qu'on a été ministre pendant 5 ans du gouvernement et du président, qui est lui aussi toujours le même, comme par hasard. Donc tout va très bien dans le meilleur des mondes.
Mais il est élu, démocratiquement.
Est-ce que j'ai dit le contraire?
Non, il est élu. Laissez entendre, il y a quelque chose de sous-jacent.
Très cher Adi, je veux dire qu'il est élu, je vais nuancer le propos, je veux dire qu'il est élu légalement. Bref. On peut y revenir.
C'est un autre sujet.
On peut y revenir. Mais
on est dans un pays démocratique quand même.
Tout à fait.
C'est pas
il y a beaucoup de revenir
tout seul. Non,
on y viendra peut-être sur le sujet du Burkini. Mais là où
il a bondé les urnes.
Très cher Adil, ce président qui vient d'être élu a bien été ministre sous François Hollande, bien été ministre de l'économie, d'accord? Donc il les connaît tous ces problèmes, il les connaît même tellement bien qu'il utilise tous les artifices pour nous faire croire qu'il les découvre. Donc on va arrêter la plaisanterie, on va arrêter de faire semblant.
Il faut arrêter de faire semblant.
Mais écoute, s'il y a des auditeurs qui m'écoutent et qui en ont assez, qu'on leur balance.
Il y en a beaucoup qui vous écoutent.
Alors qui en ont assez, qu'on leur balance des images d'Épinal, des cartes postales, soit sur le palais du Pharo, maintenant au Mureau, ça fait.
Alors quand on va pas dans les quartiers, on dit que les quartiers.
Non mais faut y aller avec sincérité.
Quand on y va, on dit oui, effectivement, c'est de l'hypocrisie.
Faut y aller avec sincérité.
Donc en gros, faut faire quoi?
Faut être sincère.
Mais je pense qu'elle était sincère, non?
Mais non.
Moi, je la défends pas, Borne. Mais quand elle va, elle dit je veux parler des mentorats du jeune et que je veux parler des jeunes demoiselles, des jeunes filles, non?
Adil, les jeunes filles, mais elles sont sérieux. Tu vois, on parle de quoi? On peut parler aussi des féminicides, si tu veux, avec l'absence totale de réforme sur la procédure judiciaire. Parlons-en, ça aussi, c'est un sujet. Tous ces gens-là nous balancent des slogans et ne font rien.
Qu'aurait-il fallu dire?
Alors, c'est reconquérir les quartiers à quelques semaines de
reconquérir. Mais déjà, il ne faudrait pas fallu les laisser tomber. Les reconquérir les quartiers. Bon. Quand on nous annonce que les quartiers sont tenus à Marseille, par exemple, et que pas plus tard qu'il y a 10 jours, on a des gens qui sont exclus des cités où ils vivent pour être réfugiés parce qu'ils sont agressés par des gangs. Mais de qui on se moque? Alors, un peu de sérieux, quand même.
Quasi. Un peu de sérieux.
Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aller au Mureau, les déplacements, de toute façon, des membres du gouvernement, en l'occurrence du Premier ministre, sont toujours travaillés à l'avance.
C'est médiatique, on le sait.
C'est médiatique, etc. Ce qui n'est pas forcément dénué d'une sincérité. Je pense qu'elle peut être sincère lorsqu'elle parle aux femmes. Il y a une cohérence par rapport à son discours lors de la passation ou de l'intronisation. Hein, on l'entend comme on veut. Mais après, oui, après, il y a la visée politique à quelques jours de l'élection législative. Aller sur des territoires qui ont fortement voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle.
C'est justement lié à l'opportunisme. On appelle ça l'opportunisme
oui,
aussi.
Oui, mais après, on est quand même dans le jeu politique. Ça veut dire fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut accepter. Pour moi, il n'y a pas des coups en dessous de la ceinture que d'aller sur les terres mélenchonistes, entre guillemets, si on prend le résultat du premier tour, pour aller parler de social, pour aller parler aux jeunes femmes, d'inclusion, etc. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, il faut que ce soit sincère. Et on en attend beaucoup. On en attend beaucoup. J'en parlais tout à l'heure par rapport au NIT. Si vous voulez, c'est une population, à l'intérieur d'une population, qui est la jeunesse, qui est très peu ciblée, alors que pourtant, elle est vectrice d'un certain nombre de difficultés et qui, on parle quand même de jeunes qui ont été frappés durement par la Covid-19.
Ah ben, on parle de ça, justement.
Et qui sont la population la plus déprimée et qui demain vont être les adultes qui vont construire la société. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut à ce gouvernement davantage de vision qui en a eu ou qui aurait dû en avoir, sur la précédente mandature. C'est pour ça que j'ai du mal en fait à commenter en fait ce déplacement, parce que pour moi il est uniquement politique. Ici je dois analyser.
Mais il prépare surtout les législatives.
Politique, et là-dessus j'ai pas grand sujet à dire. Par contre,
et puis surtout, c'est un symbole aussi.
J'espère qu'à un moment donné il y aura davantage de sincérité. Et quand on regarde effectivement par rapport à Marseille, je trouve que la médiatisation des quartiers nord de Marseille, c'est souvent dans des émissions un peu polémiques, mais lorsqu'on doit en parler dans les masses médias.
Morandini la semaine dernière.
Exactement. Et lorsqu'on doit attendre effectivement du gouvernement un peu plus d'action là-dessus, on n'en entend rien, en fait.
La situation à Marseille, je la connais bien, j'y ai vécu. J'ai grandi à Marseille, j'y ai travaillé à Marseille. J'ai vu cette situation se dégrader d'année en année. Ça fait plus de 30 ans qu'on abandonne littéralement Marseille.
Marseille est livrée elle-même.
À tout point de vue, au niveau logistique, au niveau sécuritaire. Donc il y a des moments où aussi il faut arrêter de faire que ce soit découvrir la vieille. Ces problèmes-là sont bien identifiés, c'est comme le Beauvau de la sécurité qui a été fait.
Donc Marseille est abandonné.
On faisait semblant de comme
d'autres quartiers d'ailleurs.
Après, on peut fixer
comme d'autres quartiers, les amis.
On peut fixer l'échelle des responsabilités. C'est clair que le gouvernement a une part de responsabilité dans ce qu'il y a à Marseille, pas uniquement celui sous la présidence de Macron, d'Emmanuel Macron, mais avant Hollande, on peut remonter jusqu'à Sarkozy.
Mais nous avons menti quand même. Attends, nous avons quand même menti.
Mais après, ce que je voulais dire, c'est que même localement, c'est encore pire. Je veux dire, il y a eu des années de mandature, de l'ancien maire de Marseille. Il y a rien qui a changé, etc. Donc en fait, chacun doit se regarder dans la glace.
Non mais d'accord, mais faut pas mentir. Faut pas dire aux gens, faut pas que Darmanin ensuite aille devant les écrans télé et dise on gère la situation, il y a pas de zone de non-droit à Marseille. Ouais. Faut pas que la préfète, sur ordre du ministère de l'Intérieur. Oui, mais à un moment, ça suffit plus. Ça suffit plus, Adil. Quand il y a des gens qui sont agressés,
c'est
chez
pas
eux,
sur ça qu'on doit faire de la politique. Virés.
Moi, je juge les gens sur leurs actes.
Sur les élections, on fait de la politique sur ça.
Il est 19h30, messieurs. On reprend le débat qui suscite évidemment beaucoup d'échanges. On est d'accord. Il y a différents points de vue et c'est le but et c'est le lieu d'ailleurs dans les informés. Tout de suite, le Quad 9. On lance la machine.
Les informés, le Quad 9.
Comme chaque jeudi, c'est avec Pascal Boniface, le patron de l'ERIS. Bonjour, bonsoir, mon cher Pascal.
Bonsoir Adil.
Quel plaisir de vous retrouver, Pascal Boniface. Vous allez parler, consacrer votre édito dans le Quad 9. Eh bien, vous parlez de la gaffe de George Bush qui confond l'Ukraine et l'Irak. Rien curieux quand même.
Ah oui, c'est vraiment un monument, effectivement, qui a été lors d'une conférence. George Bush a dénoncé l'entrée en guerre complètement agressive, inutile, d'une guerre qui a été catastrophique, et il a dit l'Irak. Et après, tout le monde a rigolé, et il s'est repris, il a dit, ah non, l'Ukraine, je vais dire l'Ukraine. Et ça veut tout dire, parce qu'il dénonce une guerre qu'il a lui-même lancée, donc il avoue, quelque part, implicitement, que sa guerre était illégale, inhumaine, catastrophique, et puis d'un coup, il réalise qu'il est rendu de son erreur, et il va attaquer l'Ukraine, qui est aussi effectivement une guerre illégale, catastrophique, inhumaine. Mais disons qu'on voit bien là cette tentation, cette volonté des Américains de juger les autres et de ne pas vouloir être jugés eux-mêmes. Et donc c'est vraiment, je crois que ça va rester dans les annales, parce que le pire, c'est que les gens rigolent. Et ils trouvent ça tout à fait normal. Et donc c'est quand même hallucinant. Et donc, il faut bien voir quand même que si c'est, ceci explique pourquoi tous les pays africains, latino-américains, asiatiques n'ont pas pris de sanctions contre la Russie. Ils ont condamné l'agression de l'Ukraine par la Russie, mais ils n'ont pas suivi les Américains et les Occidentaux dans le fait de sanctionner la Russie parce qu'il n'y a pas eu de sanctions contre les États-Unis après la guerre d'Irak. Est-ce qu'on a dit qu'il fallait déférer George Bush devant la Cour pénale internationale? Est-ce qu'on a exclu les équipes américaines des Jeux Olympiques? Est-ce qu'on a exclu les cinéastes américains du Festival de Cannes, qu'ils soient pour ou contre la guerre d'ailleurs? Et donc, en fait, voilà, donc un peu le roi élu. Cette gaffe de George Bush, qui a fait rire, mais un peu jaune quand même, les autres nations et les autres assistants, montre bien que ce deux poids deux mesures, ce sentiment que l'on peut tout faire si on est occidental et qu'on n'a aucun droit si on ne l'est pas, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est ridicule, qui est insultant, et les gens voient que ça ne marche pas. Et donc là, c'était quand même l'exemple absolu de la bêtise de ce type de position.
Vous avez raison de le rappeler, c'est vrai, une gaffe monumentale. Et effectivement, votre édito nous précise assez bien, si vous voulez, cette géopolitique parfois ubuesque, non ?
Ah oui, c'est vraiment... Là, on marche sur la tête, mais une fois encore, George Bush croit sincèrement qu'il a raison. C'est ça qui est le plus grave. C'est que les gens arrivent à être persuadés par leur propre propagande, et George Bush doit rester persuadé qu'il a eu raison de faire la guerre d'Irak, même si ça a échoué. En tous les cas, il est persuadé qu'il avait le droit de la faire, et que les autres pays n'ont pas le droit de faire comme les États-Unis.
Merci mon cher Pascal Boniface, avec autant, toujours autant de plaisir. On se retrouve jeudi prochain. Oui ? Bon. Allô, Pascal, Pascal ? Allô, allô ?
Ok, parti.
Allô, Pascal ? Bon, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Bon, il nous a quittés. Bon, écoutez, merci. À la semaine prochaine, avec autant de plaisir. On marque la dernière pause et on se retrouve tout de suite après avec le second sujet, le port du burkini dans les piscines municipales qui continue de faire parler. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h40 avec Jean-Pierre Colombiès, avec notamment Rudy Casi, 01-53-48-3000. Venez nous commenter cette actualité. Vous savez, une déclaration que je vous soumets, si on interdit le burkini, il va falloir interdire à Griezmann, Giroud, encore Messi, d'aller dans une piscine car ils ont des tatouages de Jésus. Vous savez, c'est une déclaration de qui, ça ?
Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon. Bon, il prépare les élections législatives, Jean-Pierre ?
Ben, bien sûr. Ça, bon, on en a parlé un peu en off, mais bon, ça devient... Ouais, c'est nul. C'est totalement nul. Et ça devient polluant. Ça pollue le débat, ça pollue tous les débats d'idées. Il n'y a plus de débat d'idées. On en est à commenter des informations purement, fragmentaires. Qu'Éric Piolle a eu cette idée-là, moi, je trouve ça complètement ridicule. Pour moi, dans une piscine... Alors là, c'est là où il faut faire la différence, justement, avec l'intervention qui a eu lieu au préalable, en début d'émission. Il y a des lieux privés, des piscines privées ou le bord de mer. Là, pour moi, à mon sens, on y fait ce qu'on veut. Dans les piscines publiques, ben, c'est tout le monde pareil. Rappelons-nous, on nous faisait la chasse quand on arrivait avec un shorty. Il fallait pas arriver avec un shorty parce que c'est pas hygiénique. Ben, je suis désolé, dans les piscines publiques, t'arrives en maillot de bain, point barre. Et après, on n'en fait pas un débat, religieux, bon sang, mais mettons Dieu en dehors de la piscine. Faut arrêter de dire des âneries. Faut laisser Dieu en dehors de tout ça. La piscine, c'est en maillot de bain, c'est la douche avant, on est propre et basta. Et on se respecte les uns les autres. C'est tout. Pour moi, c'est même pas religieux, c'est pas un débat qui rentre. Ça part en
01-53-48-3000, je voudrais vous entendre aussi notamment.
Moi, je dirais, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Entre guillemets, le laïc au laïc et le religieux au religieux. Ça fait partie de l'essence de l'État français, de ne pas s'occuper des religions.
Oui.
J'ai encore l'article premier de la Constitution qui dit que, la France assure l'égalité devant la loi de tous les concitoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Donc c'est pas à l'État, en fait, de légiférer, entre guillemets, sur la foi. Autrement dit, sur la manière dont on perçoit la manière de se vêtir au regard de sa foi, ça appartient en fait à toutes les femmes. Et en plus de ça, il y a la question aussi de la femme aussi, c'est-à-dire comment est-ce que la femme se perçoit dans son environnement, etc. Elle fait ce qu'elle veut et l'État n'a pas à intervenir là-dessus au motif que voilà, ça peut être un instrument religieux, etc. Ça, c'est si vrai. C'est religieux, c'est personnel, parce que la religion, ça veut dire relié à, donc c'est l'individu qui est relié à Dieu, entre guillemets. Maintenant, par rapport à la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, je trouve ça malencontreux. Pourquoi ? Parce que ça oppose en fait deux religions l'une face à l'autre, alors que ces deux religions sont confrontées à la même réalité, c'est-à-dire d'exister dans un espace Lesquelles ? Public qui d'exister dans un espace public qui est de plus en plus
qui est confronté à qui ? Quelle religion ?
Bah, je trouve qu'il confronte le christianisme, puisqu'il parle effectivement de tatouage de Jésus et l'islam, alors qu'en réalité sur la question de la laïcité, ces deux religions en fait sont censées être soumises donc à la même à la même enseigne. Et c'est quand même étonnant en fait de le voir défendre l'islam de cette manière et quelque part un peu
et puis certains vous diront, est-ce que le burkini est une tenue religieuse?
Bah, de toute façon, je pense que ça l'est pour les personnes femmes qui le portent, parce que je pense qu'elles le portent sur un principe religieux. Alors après, je rentre pas dans les histoires. Est-ce que dans le Coran, on parle du burkini, etc.
Non, il n'y a pas de burkini dans le Coran.
Voilà.
Non, il n'y a pas de burkini.
Non, mais par contre, elles ont la conviction que c'est religieux. Et à la limite, qu'elles le pensent ou qu'elles le pensent pas, on s'en fiche.
Parce que je voudrais les entendre, si des femmes nous écoutent, 01 53 48 3000, on voudrait vous entendre.
Dans la dimension religieuse, il y a tout simplement la
voix des femmes.
La liberté, en fait, de se vêtir comme on veut. Donc moi, la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, je la trouve vraiment malencontreuse, parce qu'il faut pas...
Malencontreuse. Jean-Pierre Colombiès, quelle est cette précision?
Faut pas monter les religions les unes contre les autres.
Non, surtout pas.
Et puis en plus, Giroud, il a rien demandé.
Non, non,
surtout que c'est les législatives, les messieurs, c'est peut-être ça aussi.
Non, mais. Faut pas jouer.
Peut-être ça aussi.
Oui, mais c'est il faut qu'ils aient conscience qu'il faudrait qu'ils arrêtent de dire des âneries. On ne joue pas avec des allumettes à côté d'un baril de poudre. Ça, c'est le premier point.
On sait comment ça finit.
Exactement. De deux, on sait très bien que d'autres communautés, je pense à la communauté juive aussi, certaines femmes de la communauté juive ont demandé à certaines municipalités d'avoir des créneaux horaires, mais hors des créneaux publics. Parce qu'elles voulaient, elles aussi, c'est à peu près la même justification.
C'est vrai, c'est exactement la même chose.
C'est exactement la même chose. Voilà. Bon, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais que les uns et les autres ne s'opposent pas, ne soient pas contraints d'accepter le diktat des autres, c'est tout. Moi, je suis désolé. Et quel besoin aussi d'afficher systématiquement sa croyance, comme tu viens de le dire fort justement, qui est un lien totalement personnel et intime, aux autres, et de fait de gêner les autres.
Je voudrais entendre les femmes. 01 53 48 3000. Vous êtes nombreuses à nous écouter, comme chaque soir. 01 53 48 3000, les femmes, venez donner votre avis. 19h45, messieurs, en attendant justement d'écouter certaines d'entre elles. Une autre décision qui fait grincer des dents, justement, à gauche cette fois-ci. On reste à gauche. C'est, vous savez, la NUP. La NUP, ou comment
NUPES,
on dit
NUPES.
Non, on dit NUP.
J'entends NUPES et NUP.
Moi, j'entends beaucoup NUP. Mais c'est vrai qu'il paraît qu'on peut dire NUPES.
J'entends NUPES.
Alors, Mélenchon accuse le ministère de l'Intérieur de minorer la percée de la NUP. Voilà une décision qui fait grincer, je le disais tout à l'heure. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que il dit qu'il veut cacher, occulter la percée de la toute nouvelle mouvance politique, la NUP, et que Jean-Luc Mélenchon menace de recourir au Conseil de l'État. Alors, tiens, parlons-en. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon accuse le ministère de l'Intérieur d'empêcher la NUP de s'enregistrer? Bon, il redit quasi, franchement.
Déjà, ce qu'il faut dire là-bas, faut sur
c'est ça, quoi, diviser pour mieux régner?
Non, mais il y a des éléments de contexte d'abord. C'est que on parle d'une circulaire, mais il y en a eu deux. La première, c'était sur le 27 avril. Et sur cette circulaire, ne figurait pas non seulement l'interdiction d'évoquer en fait des nuances politiques, parce qu'on parle de nuances politiques, telles que la NUP, mais aussi Ensemble, qui est la nuance politique d'En Marche. Maintenant, dans la dernière qui est sortie, effectivement, il y a cette contre-indication à mettre en avant des nuances, au prétexte qu'effectivement, chaque entité politique doit être perçue comme telle. Effectivement, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il est légitime là-dessus de pouvoir s'en insurger, parce que Ensemble est une nuance politique qui apparaîtra sur les bulletins de vote, etc., alors que NUP, non. Voilà. Mais par contre, sur le plan purement technique, les associations donc de partis qui composent la NUP se sont inscrites en tant que ELV, etc. Oui. Alors que,
mais son rêve, c'est d'accéder à Matignon, vous le savez, c'est pour ça qu'ils jouent tout ça.
Oui, mais en fait, ils ont commis une erreur. Ça veut dire en fait qu'au moment où ils ont créé la NUP, ils auraient dû créer aussi un parti de financement, ce qui leur aurait permis de pouvoir déclarer en préfecture NUP comme étant une nuance.
Pourquoi ils parlent de système alors de Dupri?
Mais parce que En Marche, en fait, l'avait déjà fait. En Marche avait déjà anticipé parce que Ensemble est un parti politique. Ouais. Et donc un parti de financement.
Maintenant, c'est
donc
Renaissance.
Ils ont pu se déclarer comme ça.
C'est voilà. Renaissance.
Oui, ouais. Mais pour législatif, c'est Ensemble. Et ça a été créé comme association de financement. Donc là-dessus, Jean-Luc Mélenchon a le droit, effectivement, de se sentir délégitimé. Mais ils auraient dû, effectivement, s'inscrire, non pas comme EELV, mais comme NUP. Voilà.
Alors, Jean-Pierre Colombiès, qu'est-ce qui vous fait sourire?
Ça me fait rire, même.
Pourquoi?
Ça me fait rire dans l'analyse.
Tout vous fait rire, c'est bien, agréable.
Non, mais c'est pas lui qui me fait rire, au contraire, c'est très intéressant d'écouter, décrypter tout ça. Mais c'est kafkaïen.
Ouais.
C'est le problème.
Kafkaïen, quoi. On en est à discuter d'une représentativité qui, pour l'instant, n'existe pas, puisque les élections n'ont pas eu lieu. Je rappelle quand même à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc, si tu nous écoutes, on te salue.
Ils sont beaucoup. Attention, ils sont nombreux, les Mélenchonistes.
Je rappelle qu'il est arrivé troisième. Si ce monsieur était réellement attaché à la démocratie, il faudrait peut-être qu'il s'interroge aussi au niveau de représentativité de tous les partis à l'Assemblée nationale. Or, quand on se glorifie par des alliances tripartites, de refuser l'entrée au Parlement du Rassemblement National. Je ne suis pas militant Rassemblement National, on va être clair. Hein.
Pardon.
D'ailleurs, je milite pour personne, ça Adil peut en témoigner. J'espère. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en même temps, ces gens-là modifient et travestissent les expressions populaires et se plaignent de ne pas être reconnus comme étant les leaders d'une opposition. Mais je rappelle qu'il n'est pas leader. Je veux dire, si on fait le cumul de ce qu'a fait le Rassemblement National et Zemmour, on est à 40%. Je dirais que le reste se traîne à 35%. Mmh. Donc, soyons sérieux deux secondes. Bah après, c'est crédible à mes yeux s'il demandait, par exemple, une proportionnelle partielle ou au moins...
À quoi Emmanuel Macron s'était engagé.
Promesse qu'il n'a pas tenue.
Et il a 50 plus pour le faire.
Oui, pour moi, c'est un vrai problème.
Clochette.
Pour moi, c'est un vrai problème.
Je vous stoppe, on va aller direction Toulouse.
En tant qu'électeur, c'est
un vrai problème. Toulouse, on va accueillir Maude. Bonsoir, Maude.
Bonsoir, monsieur.
Notre Toulousaine, on vous écoute, ma chère Maude. Bienvenue dans Les Informés.
Eh bien, merci, c'est gentil.
Alors, cette histoire de Burkini et la déclaration de Mélenchon.
Alors, la déclaration de Mélenchon, je ne l'ai pas entendue, je n'ai pas suivi.
Je vous écoute, Maude.
En fait, je coupe la radio.
Oui, c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe, Maud?
Je comprends pas pourquoi ça pose un problème qu'on veuille aller se baigner habillé ou qu'on veuille marcher dans la rue avec un voile. Je ne vois pas où est le problème. Oui. Qu'on ne dérange personne et on n'agresse personne. Je vois pas qui, parce que j'ai entendu tout à l'heure le monsieur qui dit ça nous offense ou ça nous dérange.
Mais c'est Jean-Pierre, ça.
J'ai pas dit que ça nous offense.
C'est Jean-Pierre Colombier.
Ça vous dérange.
Jean-Pierre, c'est le plein toujours la gueule.
Parce que nous, on n'empêche pas les gens, de sortir à moitié habillés.
Attendez, vous allez répondre, Jean-Pierre.
Oui. Mais nous, on veut être habillés, on veut être tranquilles et on nous laisse pas faire.
Maud, vous adressez à Jean-Pierre Colombier s'il va vous répondre. Jean-Pierre.
Oui, bonsoir.
C'est Maud qui est avec nous.
Bonsoir Maud. Alors premièrement, c'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'est un mot français, certainement pas. Les mots ont un sens. Hein. Être offensé, ça veut dire qu'on est insulté.
Vous l'avez dit, ça me dérange. Ça nous dérange.
Non plus. J'ai pas dit ça. J'ai dit, je vous explique ce que j'ai dit. Je vais le répéter. C'est pas grave. J'ai dit que pour moi, il y a un espace public était l'espace où chacun était indifférencié et qu'on n'a pas dans cet espace-là à imposer aux autres son choix. Qui est son choix personnel et religieux.
Mais c'est grave ce que vous dites, imposer aux autres.
Auquel je rajoute, si vous le permettez, un problème tout simplement d'hygiène, où pendant des années, je l'ai dit, je le répète, on a imposé à tout le monde d'être en maillot de bain, tout simplement parce que ça nous permettait de prendre une douche avant, tout simplement, et qu'on empêchait même les garçons d'arriver en shorty. Tout ça, c'est pas plus compliqué que ça. Je dis pas autre chose. Moi, le choix de la religion, très chère madame, il est propre à chacun, et il est respectable. Mais il est respectable chez soi, dans son intimité, en son intérieur.
Mais moi, d'être en train de vous dire que voilà, si j'ai envie de me baigner en burkini, en quoi ça pose un problème?
Mais pas dans un espace public. Elle peut très bien, comme elle a dit la dame tout à l'heure en début d'émission, aller dans une piscine privée au bord de mer, et ça, personne ne vient.
Au bord de mer, on a empêché aussi.
Pardon, Maud.
Au bord de mer aussi, on nous empêche, des fois, on n'a pas le droit d'aller baigner en bord de mer.
À l'époque,
vous faites ce que vous voulez, Maud. Hein.
Ah, complètement, oui.
En bord de mer, moi, j'ai vu sur des plages régulièrement.
Non, vous parlez d'hygiène, les gens qui prennent leur douche avec leur maillot de bain. Ils l'ont sur eux. Pourquoi on peut pas se prendre la douche avec le burkini sur l'eau? Il y a une différence entre juste un petit slip et le burkini, il y a une grosse différence.
Vous voyez que ça fait débat quand même.
Hein. Je vous l'ai dit que ça faisait débat. C'est un burkini.
C'est pas une question d'hygiène. Et combien de personnes font pipi dans la piscine? C'est plus d'hygiénique. Parce que ça, on oublie, mais il y a plein de gens qui le font et je le sais. Donc ne me dites pas question d'hygiène parce que c'est pas vrai.
Le burkini, il n'y a pas plus qu'un maillot de bain, c'est la même chose, c'est le même principe.
Ça va à la machine à laver, on le nettoie, c'est pareil.
Oui, Maude, je sens que ça va susciter évidemment un grand débat. Vous avez eu raison de venir en parler sur l'antenne des Informés sur Beurre FM. Merci pour votre fidélité, de votre fidélité, Maude.
Merci, restez
à l'écoute. Je vous promets, hein, Jean-Pierre, beaucoup de filles comme Maude pensent comme Maude, d'ailleurs, justement.
Non, mais en fait, elles ont le droit de penser comme elles pensent. Parce que moi, je pense qu'on ne doit pas définir, en fait, dans l'espace public, la manière dont on doit s'habiller.
Donc, on peut aller se baigner en jean et en t-shirt.
Après, juste pour finir là-dessus, maintenant, il y a un règlement. Ah oui. Si le règlement intérieur prévoit une équité pour tous, à ce moment-là, on est dans le cadre de la loi, parce que la loi, elle ne voit pas, elle n'entend pas. Elle juge simplement sur les faits. Et un règlement intérieur doit être respecté pour tous. Maintenant, si il y a un particularisme qu'on peut mettre en place pour respecter la foi des uns, si c'est au regard de leur foi qu'elles le font, à ce moment-là, il faut que la question et de la foi soit réglée et de l'hygiène. Un burkini, s'il est, je sais pas moi, dans les matières que l'on porte pour les maillots de bain, etc., il se posera la question de l'hygiène à ce moment-là.
Messieurs, c'est comme une combinaison. Juste 30 secondes. Il nous reste combien de temps de plongée? Il n'y a pas de question d'hygiène. Je voudrais juste qu'on finisse là-dessus. Vous savez quoi? Sur Mélenchon qui accuse. Alors, c'est la Macronie. C'est qui alors au juste? C'est Darmanin? C'est la Macronie qui refuse d'enregistrer les candidatures de NUP en 10 secondes? Mélenchon qui dit ça.
Moi, je l'ai dit tout à l'heure, NUP aurait dû mieux jouer le coup. Maintenant, sinon, c'est un procès d'intention qu'on fait à la Macronie. Pourquoi pas? Je sais pas. Bien. Mais pour les municipales, il s'était passé la même chose.
10 secondes.
Les LR avaient fait un recours auprès du Conseil d'État.
Je dois rendre l'antenne.
La justice tranchera. Ces questions-là.
Eh bien, messieurs.
Me laisse sans voix.
Et il va porter plainte, me semble-t-il, Mélenchon.
Exactement. Merci à vous. 19h54, bientôt 55. Bilan Edman. Bonsoir. Quel est le programme qui nous attend dans une poignée de minutes?
Il est assez. Il est de qualité ce soir.
Il est
dans le sport, argent dans le sport. Le Legans dans les stades et aussi les respects des valeurs dans le sport. Voilà, on va accueillir, il va rester, si gentiment, Jean-Pierre Colombiès.
Ben on vous le prête.
Notre invité, voilà, on va se le prêter. C'est le mercato. Voilà. On va le prendre tout au long de cette émission. Et on aura Rachid Chelbi, justement. Ouais. Un arbitre et auteur de Amor.
Vous savez qu'il provoque la polémique auprès des
élèves. On va voir. Ben là, ça va être assez sympa. Ça va être assez sympa,
à demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.